On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Sémot, collaborateur au magazine Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et Florent Rodeau, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Florent.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, la réponse de Vladimir Poutine à la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. D'accord, à condition de voir cette trêve conduire à une paix durable et surtout s'attaquer aux causes profondes de la crise aux yeux de Moscou. Le retrait complet des troupes ukrainiennes de la région russe de Koursk, mais aussi, on l'a compris, le gel des territoires conquis et sans doute un changement de pouvoir à Kiev. Réponse prometteuse, mais pas complète, juge Donald Trump avant un entretien téléphonique prévu entre les deux hommes. Et puis une profusion de candidats d'extrême droite à la présidentielle en Roumanie. Réaction des nationalistes après la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a invalidé la candidature de Călin Georgescu, arrivée en tête du premier tour en novembre. Scrutin annulé par ces mêmes juges constitutionnels. On va plus loin tout de suite. C'est un oui, mais assorti de telles conditions qu'on se demande surtout s'il n'est pas une manière de dire non pour Vladimir Poutine à la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours formulé par l'Ukraine et les États-Unis. Écoutez la réponse du président russe avec Jean Barrère.
Oui, mais à quelques conditions. Le président russe, recevant son homologue biélorusse, s'est dit favorable à un cessez-le-feu après la proposition d'une trêve de 30 jours par les Ukrainiens et les Américains la veille. Mais il veut qu'il conduise à une paix durable. Il souhaite conserver son avantage sur le terrain après la reconquête d'une partie de la région de Koursk. Une trêve immédiate et en l'état favoriserait l'Ukraine, selon lui. Il soulève aussi de nombreuses questions sur la mise en œuvre d'un tel accord.
Imaginez près de 2000 km de front. Qui déterminera qui a violé un éventuel cessez-le-feu ? Et où sur ces 2000 km ? Et qui sera blâmé ensuite en cas de violation de l'accord ? Ce sont des questions qui nécessitent un examen approfondi de la part des deux côtés.
Vladimir Poutine, qui a remercié Donald Trump pour son travail de négociation, veut s'entretenir avec lui par téléphone. De son côté, le président américain recevait le secrétaire général de l'OTAN. Il s'est dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine et dit espérer que la Russie fera le bon choix dans les négociations.
De nombreux détails d'un accord final ont été discutés. Nous verrons si la Russie est présente et si elle ne l'est pas, ce sera une grande déception pour le monde.
L'émissaire américain Steve Witkoff s'est rendu à Moscou afin de mener plus avant ces négociations.
Et Volodymyr Zelensky lui s'exprime à l'instant même, le président ukrainien qui dit penser que Vladimir Poutine se prépare à rejeter la proposition de cesser le feu, mais qu'il aurait peur, selon lui, d'en informer directement Donald Trump lui-même. Gulliver Krag, vous êtes avec nous en direct de Kiev. On s'attendait donc, côté ukrainien, à une telle réponse de Moscou ?
Oui, la plupart des gens avant ce soir disaient qu'ils pensaient que soit Vladimir Poutine dirait tout simplement non, ou bien ce serait oui, mais avec des conditions qui rendraient l'application du cessez-le-feu pratiquement impossible. Volodymyr Zelensky conclut que c'est la deuxième option qui a été choisie par Vladimir Poutine. Pour lui, il est clair, il n'a pas l'intention d'accepter ce cessez-le-feu réellement, du moins pas pour tout de suite. Et le ton du message de Volodymyr Zelensky, c'est « Nous avons proposé un cessez-le-feu inconditionnel. Vous nous revenez avec des conditions. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça le deal. » Donc Volodymyr Zelensky est absolument clairement déçu, mais je pense pas du tout surpris par la réponse de Vladimir Poutine ce soir. Mais je pense que les réponses de Vladimir Poutine, en réalité, étaient suffisamment floues pour laisser de la marge de manœuvre pour qu'un accord puisse peut-être être trouvé dans les discussions qu'il va avoir ce soir à Moscou et puis peut-être au téléphone avec Donald Trump dans les jours qui viennent avec les Américains. Il a parlé de la nécessité que le cessez-le-feu mène vers une solution de ce qu'il appelle les raisons fondamentaux du conflit, mais cela n'empêche pas forcément d'accepter un cessez-le-feu temporaire en attendant. Il a parlé de la question de que faire de la région de Koursk. Est-ce que les soldats ukrainiens vont se rendre ? Est-ce qu'ils vont être faits prisonniers ? Est-ce que les Russes vont être obligés de les laisser partir, rentrer en Ukraine ? Vladimir Poutine clairement pense que la bataille pour la région de Koursk est déjà terminée. Les Ukrainiens disent un peu autrement, mais je pense qu'il est clair qu'ils sont en grande difficulté. Mais sur tout cela, il a été assez flou. La chose concrète qu'on vient de l'entendre, que Vladimir Poutine a évoqué, c'est le problème de comment observer et vérifier que le cessez-le-feu est observé et déterminé d'éventuelles violations du cessez-le-feu. Et si vous vous souvenez, entre 2015 et 2022, quand des cessez-le-feu ont été sans cesse renouvelés dans le Donbass, puis violés. Les Ukrainiens disaient que c'était les Russes disaient que c'était les Ukrainiens. La mission d'observation de l'OSCE sur place était la plupart du temps incapable de trancher. Alors, des sources diplomatiques ukrainiennes disent qu'ils ont déjà parlé de cette question avec les Américains et que les Américains ont un plan pour une sorte de mission d'observation de l'observation de ce cessez-le-feu, mais ils n'ont pas du tout annoncé. Et je pense qu'il est clair que pour le moins mettre en place ce genre de mission d'observation va prendre beaucoup de temps.
Merci Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24. Marc Sémot, Vladimir Poutine qui pose comme condition qu'une trêve puisse conduire à une paix durable et s'attaque aux causes profondes de cette crise. Ça laisse évidemment la porte ouverte à toutes les exigences côté russe, y compris un changement de pouvoir à Kiev.
Mais surtout, là, c'est un oui-mais, comme tu le disais, ou un non poli. Mais en réalité, il ne s'est rien passé ou pas grand-chose. Même la mise en scène était très significative. Hier, on a vu Vladimir Poutine pour la première fois en uniforme, sur le front, pour la première fois aussi. Bon. Il a parlé des soldats ukrainiens faits prisonniers comme des terroristes, ce qui était assez loin des conditions du cessez-le-feu où on parlait d'échanges de prisonniers. Oui. Et puis aujourd'hui, il a évoqué cette question à la fin de la conférence de presse avec Loukachenko, avec une question posée par un séide. Et il dit, en substance, le cessez-le-feu, il profiterait d'abord aux Ukrainiens. Il n'a pas dit non, il n'a pas fermé la porte, il ne veut pas irriter à raison Donald Trump. Et pour le reste, nous, ce qu'on veut, c'est une paix durable. C'est ce que veulent aussi, d'ailleurs, les Ukrainiens, une paix durable. Mais une paix durable, ça veut dire résoudre les causes profondes du conflit, ça veut dire pas d'OTAN aux frontières de la Russie, ça veut dire dénazification, entre guillemets, c'est-à-dire changement de donne à Kiev, ça veut dire on prend les quatre oblasts, voire y compris la partie qui n'est pas encore occupée, etc. Donc pour le moment, on est dans une phase de total immobilisme, où Poutine ne veut pas braquer Trump, mais Donald Trump s'est mis, et je terminerai là-dessus, dès le début en double position de faiblesse. D'abord en montrant qu'il est pressé, alors que ce qu'a parfaitement compris Vladimir Poutine, qui est d'autant moins pressé que Trump est pressé, et puis sur les exigences, parce que d'entrée de jeu, Donald Trump a repris à son compte pour les imposer aux Ukrainiens, nombre des exigences de Poutine, dont notamment la non-adhésion à l'OTAN et la question du fait accompli sur les territoires. Donc là, Poutine ne peut que essayer de pousser à encore plus l'avantage. Et l'art du deal, c'est très bien. Mais c'est une chose de dealer entre magnate d'immobilier ou boss de l'immobilier. Les diplomates russes ex-soviétiques, commencer par Lavrov, sont des hommes d'expérience, retors, extrêmement durs, extrêmement longs. Oui. Je voudrais juste rappeler un épisode. Entre le moment où ont commencé les négociations pour un cessez-le-feu en Corée, pendant la guerre de Corée, en 1951, et le moment où a été signé le cessez-le-feu, qui n'est pas une paix, il est toujours resté un cessez-le-feu, en 1953, et qui n'a été possible d'ailleurs que parce que Staline est mort. Donc là, on peut espérer d'ailleurs que la mort de Poutine règle la question. Il s'est passé 2 ans, et c'est là qu'il y a eu les combats les plus terribles, les batailles les plus terribles de la guerre de Corée. Donc ce précédent laisse aussi à méditer.
Il s'est passé la même chose en Syrie d'ailleurs.
Absolument.
La population russe, elle pilonnait les zones dont Bachar el-Assad avait envie de récupérer. Et pendant ce temps-là, Lavrov a négocié pendant 2 à 3 ans sans qu'il se passe grand-chose.
Oui, ce à quoi on assiste là, effectivement, c'est le négociateur hors pair que pensait être Donald Trump qui se fracasse sur la réalité et le talent aussi de négociateur des Russes, inspiré par Gromyko, le grand ministre des Affaires étrangères russe qui ne lâchait rien sous Brejnev. C'est ça qui se passe aujourd'hui, la confrontation entre deux mondes. Donald Trump s'est laissé lui-même finalement entraîner dans un corner.
Oui, on le trouve assez soft finalement avec Vladimir Poutine. Il serait très déçu d'un refus russe. On l'a connu plus véhément avec d'autres dirigeants. Un mot quand même pour revenir sur Vladimir Poutine en tenue militaire. C'est quand même la première fois, même depuis 3 ans et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, jamais on ne l'avait vu comme ça. C'est bien sûr un message à la communauté internationale, message aussi également notamment aux Russes. On le sait, hein, au moment où Washington a demandé comme condition préalable à la négociation de Kiev de retirer ses troupes, et bien qu'est-ce qu'il fait Vladimir Poutine? Il va fanfaronner sur place. Il dit que finalement ce sont ses troupes qui en 24 heures ont réussi à gommer l'échec de 7 mois. Bon, évidemment, nous ici on n'est pas dupes, mais ça marche auprès des Russes, auprès de la population russe qui n'a pas les mêmes canaux d'information que nous, canaux de désinformation, on pourrait l'appeler comme ça. Il faut aussi bien l'avoir en tête, ces négociations, un éventuel cessez-le-feu, un éventuel accord de paix, ça n'empêchera en aucun cas Vladimir Poutine de rattaquer l'Ukraine quand il pensera que le moment sera opportun. On parlait de la Syrie, on peut aussi parler des accords de Minsk hein, qui ont été totalement bafoués par Moscou, et Emmanuel Macron l'a rappelé encore la semaine dernière depuis Bruxelles. Négocier, c'est une première étape, mais c'est une garantie de rien, et c'est surtout pas un pas géant vers la paix, c'est ce que nous a dit Donald Trump la semaine dernière. A priori, cette analyse est un peu erronée.
Oui, Vladimir Poutine, qui, vous l'avez dit, fanfaronne, qu'on a vu en tout cas hier à Koursk, qui affirme d'ailleurs aujourd'hui que les prochaines étapes vers une trêve dépendront précisément de l'avancée russe dans cette région où il s'est rendu hier, avec la reprise de la ville de Soudja, on l'a vu, la principale position tenue jusque-là par les Ukrainiens. C'est un repli stratégique ukrainien ou une réelle victoire russe, Marc Semo?
Ou un accord passé déjà lors du coup de téléphone entre Trump et Vladimir Poutine, où parmi les exigences préalables, il y avait cette idée que les Ukrainiens se retirent de cette poche, qui par ailleurs n'avait pas de sens d'y rester, parce qu'il s'est sacrifié des hommes pour quelque chose qui est inutile.
De ce point de vue-là,
c'était un mini territoire qui globalement ne pouvait être échangé contre pas grand-chose. Donc on ne peut même pas exclure qu'il y ait eu accord ou tout simplement ils se retirent parce que la pression militaire est devenue beaucoup trop forte.
Auquel cas, le recul ukrainien serait plutôt annonciateur d'une bonne nouvelle sur la question précisément de cette trêve, puisqu'elle serait la précondition.
Oui, mais les Ukrainiens jouent le jeu, les Russes ne le jouent pas, d'autant qu'on a remarqué qu'à cet égard, à propos de Koursk, la première chose qu'a dit Poutine, c'était de dire, après ce qui s'est passé, on a besoin de créer une zone de sécurité. Donc là, on va franchir la frontière. Et déjà, d'ailleurs, les Ukrainiens ont évacué 8 villages du coin et parce que les Russes vont avancer. Mais pour en revenir à cette idée de cesser le feu, c'est quelque chose une idée de Trump totalement baroque et infaisable. C'est-à-dire, la proposition originelle des Français et des Britanniques, qui était celle d'un cessez-le-feu aérien et maritime avait du sens parce que c'est très facilement contrôlable. Ce sont bon, on voit d'où partent les avions, on voit et c'est central. Quand il y a alors 1200 kilomètres de front actif, 2000 en tout, c'est incontrôlable. Et là-dessus, Vladimir Poutine a raison. Donc ça veut dire des provocations dans les deux sens sans arrêt. Dès qu'il y a un moment où ça patine dans les négociations, oui, hop, on prend un village de plus.
C'est la raison pour laquelle je demandais si Donald Trump ne s'était pas laissé enfermer dans un corner avec sa proposition.
Je pense en partie oui. Et voilà, on ne comprend pas très bien maintenant où ça peut arriver. Donc, ça risque en tout cas d'être long. Et la question centrale, malgré tout, parce que bon, pour les territoires, le cessez-le-feu de ce point de vue-là est simple, parce que ça ne préjuge en rien de quel sera le statut final de ces territoires. L'histoire de l'OTAN, ça, il faudra des années. La vraie question immédiate, concrète, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, que Moscou va exiger. Alors que pour nous, Européens, la seule garantie de sécurité maintenant qui existe, c'est les quelques 1 million et 300 000 hommes de l'armée ukrainienne, rodés au combat, qui a développé des technologies en termes de drones et autres très utiles, qui en tout cas sont un immense renfort pour la défense européenne.
On a quand même l'impression que les États-Unis, ils courent derrière la Russie dans ce dossier. Hein. Steve Witkoff est quand même venu demander audience à Vladimir Poutine, qu'il a fait patienter plus de 3 heures parce qu'il était avec Alexandre Loukachenko. Donald Trump, en tout cas, il a essayé de mettre la pression sur les deux camps. Hein. C'est sa façon de faire.
Sur l'Ukraine, c'est facile.
Sur l'Ukraine, c'est facile. Militaire à l'Ukraine, menace de sanctions sur la Russie. Alors, est-ce qu'il comptait un jour les mettre à exécution, c'est une autre question. Il y a aussi, pour Donald Trump, la volonté de ne pas perdre la face. aujourd'hui, on l'a dit, cette proposition, elle a du plomb dans l'aile. Mm. C'est un nom poli, finalement, qu'a opposé aujourd'hui Vladimir Poutine. Et puis, Donald Trump, il l'a reconnu, cette proposition, elle a été travaillée uniquement avec les Ukrainiens. Oui. Donc, du côté de Moscou, c'est logique de dire, eh bien, les intérêts russes n'ont pas assez été pris en compte.
On attend que Moscou vienne avec des contre-propositions à la table des négociations.
Voilà, alors officiellement, Moscou dit, on attend la visite de Steve Witkoff pour qu'il nous donne les informations complètes. Alors, est-ce qu'on en saura un petit peu plus?
Et il est question d'un coup de fil, d'une conversation téléphonique directe entre Poutine et Trump.
Oui, Donald Trump qui souhaite même s'entretenir directement, c'est-à-dire le voir, Vladimir Poutine, on sait, hein, Donald Trump, il aime bien s'afficher avec les puissants de ce monde. On ne rappellera jamais assez l'épisode 2018-2019 avec Kim Jong-un. Oui. Rien n'avait avancé après.
Et avec Vladimir Poutine, aux côtés duquel il avait désavoué son propre service de renseignement.
Absolument.
Ça m'amène évidemment à la question, pensez-vous que Donald Trump va réagir à ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui?
Pour le moment, il est resté très poli, parce qu'il veut pas clasher. Il sait, et d'ailleurs, c'est quand même très significatif de la conscience qu'il a du rapport de force avec Poutine, plus qu'un amour immodéré pour Poutine. Bon, ils ont sur certains nombres de choses une espèce de vision... commune, vision néo-impériale, très 19e siècle, chacun avec ses territoires, sa zone d'influence, et charbonnier mettre chez lui, comme disait Goebbels quand il était critiqué la Société des Nations sur les questions de droits de l'homme et autres. Donc voilà, mais le simple fait de le ménager montre qu'il veut quand même arriver à quelque chose avec Poutine. Or, ce qu'il sous-estime totalement, c'est effectivement, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est cette opiniâtreté des diplomates soviétiques et russes. D'ailleurs, dans les mémoires de Laurent Fabius, il y a une très belle anecdote où il raconte sa première rencontre avec Lavrov, où Lavrov abat tout de suite la couleur. Il y avait un jus d'orange sur la table, c'était à Genève, je crois. Et Lavrov lui dit, vous voyez, si je vous dis que ce jus d'orange est bleu,
il est bleu.
Ce qui pose aussi la question, Vladimir Poutine est-il le seul à décider dans cette affaire en Russie? Y a-t-il des pressions au sein de l'état-major pour peut-être poursuivre, quoi qu'il arrive, les combats, compte tenu de la dynamique actuelle sur le terrain?
Bon, ça, c'est la question un petit peu un million de dollars. Ouais. On imagine qu'il y a des pressions en interne. Ce qui est quand même assez fou côté Donald Trump, c'est de voir à quel point il est fasciné par ce rapprochement avec les puissances qui étaient hostiles aux États-Unis et à quel point il a envie de se brouiller avec ses alliés traditionnels, les Européens en tête.
Mais je ne crois pas que c'est une question d'envie. Je crois que vis-à-vis de la Russie, il a réellement une stratégie. Alors, qu'on peut voir de deux manières différentes, notamment avec cette idée de séparer la Russie de la Chine, il y a des profondes affinités idéologiques, et notamment de la partie de la droite du trumpisme. L'alt-right a commencé par J.D. Vance avec les Russes, sur cette vision chrétienne, bigote, anti-LGBT,
anti-woke.
Anti-woke, tout ce qui est le libéralisme européen, qui est très profond.
Porté déjà par Steve Bannon lors du premier mandat.
Absolument. Mais Steve Bannon, c'est la version histrionique. J.D. Vance, c'est quand même une autre dimension. C'est quand même le vice-président. Il est significatif qu'en tant que vice-président, il soit associé à toutes ce qui est assez rare, voire sans précédent dans mon souvenir, qu'un vice-président soit à ce point associé à tous les grands rendez-vous diplomatiques et autres.
Il est sur le canapé à chaque fois. Et voilà. C'est lui qui a lancé l'humiliation.
Et avec cette idée
de Volodymyr Zelensky.
En commun, ils ont une volonté de détruire l'Europe. Non pas uniquement pour pouvoir traiter avec les différents pays un par un, mais le projet dont l'Europe est porteur. Parce que c'est l'idée d'un empire par la paix, et non pas par la guerre, par une abdication volontaire de ses membres, d'une partie de leur souveraineté, etc. C'est le libéralisme, c'est tout ce qu'ils exècrent. Et en même temps, on remarquera que l'un comme l'autre, qui nous amènera d'ailleurs au sujet d'après, ont en commun... le combat, par exemple, pour imposer des démocraties illibérales dans les pays de l'Est. C'est ce qui se passe en Roumanie, où on voit Poutine et Trump soutenir le même homme, qui maintenant a été mis en partie hors jeu, Calin Georgescu, ce candidat d'extrême droite, pro-russe, anti-vax, complotiste. Il coche absolument toutes les cases. Donc il y a quelque chose de plus profond dans ce rapprochement avec la Russie. Et c'est pour ça aussi, je pense, que Trump le ménage.
Communauté d'intérêt, communauté peut-être
de vision.
Destin, de vision. On le voit, vous l'avez dit effectivement, avec la Roumanie, critiquée des deux côtés pour avoir barré la route à Calin Georgescu, candidat d'extrême droite arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle le 24 novembre dernier. Scrutin annulé par la Cour constitutionnelle roumaine qui vient d'invalider à nouveau, ou sa nouvelle plutôt candidature, ouvrant la voie à d'autres postulants des droites radicales. On voit ça en image avec Alexandra Carelli.
Elle est venue déposer sa candidature munie de gants de boxe. La participation de Diana Sosoaka à la prochaine élection présidentielle paraît peu probable, mais la candidate d'extrême droite est prête à se battre. Comme vous pouvez le voir, je suis venue prête à combattre le système une fois de plus. Le système n'est pas prêt pour des gens comme nous, pour des gens qui ne cèdent pas. Ne pas céder, même face à la Cour suprême, nationaliste radicale, hostile aux États-Unis et à Israël, anti-ukrainienne et complotiste forcenée, l'eurodéputé de 49 ans avait été exclu de la course à la présidentielle en octobre dernier. Si je ne suis pas autorisée à me présenter et que l'on m'en empêche à nouveau, la poussière et les cendres se déposeront sur leurs élections et leur système. Diana Sosoaka veut profiter de l'annulation du premier tour du scrutin et de l'exclusion définitive mardi par la Cour constitutionnelle d'un autre candidat d'extrême droite, Kalin Georgescu, arrivé en tête contre toute attente le 24 novembre dernier. Il avait fait l'essentiel de sa campagne sur TikTok, mais des irrégularités sur fond de suspicion d'ingérence russe ont eu raison de son succès éclair. Sa principale opposante, la pro-européenne Elena Lasconi, vient elle aussi de déposer sa candidature et se dit également prête au combat.
Je suis une battante, je n'aime pas les perdants. Je n'aime pas l'attitude d'un perdant. Toujours dans ma vie, quand j'entre dans une compétition, je projette la victoire.
Avec la bénédiction du candidat déchu, deux partis d'extrême droite ont déclaré s'associer pour le nouveau scrutin. Annonce faite sur les réseaux sociaux par Anna Maria Gravilla et Georges Simion, aux côtés de Kalin Georgescu.
Nous sommes ensemble, moi, Anna Maria et Georges Simion. Nous partageons les mêmes valeurs, la paix, la démocratie, la liberté.
Ils ont jusqu'au 15 mars pour faire enregistrer leur candidature. Le premier tour est prévu le 4 mai prochain.
L'héritier de... Et on continue d'en parler avec Marc Semo et toujours Florent Rodeau à mes côtés. Alors où TikTok franchit la barre du milliard d'utilisateurs à travers le monde, peut-on encore s'opposer, Marc, au pouvoir, à la puissance des réseaux sociaux et aux manipulations auxquelles ils donnent lieu ?
Oui et non.
D'abord, par la voie institutionnelle, mais le peuple va peut-être se cabrer.
Les réseaux sociaux ont évidemment un effet démultiplicateur énorme, mais... Les réseaux sociaux ont probablement expliqué, et notamment TikTok, pourquoi justement dans ce cas roumain, Kalin Georgescu, qui était un total inconnu, est arrivé en tête. Mais il y avait deux autres candidats d'extrême droite. Donc ça s'est joué à l'intérieur de l'extrême droite. Mais la vraie question, c'est de comprendre pourquoi un certain type de message cristallise les désespoirs, les rêves, les espérances, etc., d'un peuple. Et c'est là-dessus que Kalin Georgescu était redoutable. Donc là, il a été mis hors jeu. Ça pose quand même, et c'est en ça que le laboratoire roumain, politique roumain, est passionnant. Parce qu'il pose le problème, dans une démocratie fragile, qu'est-ce que l'on peut faire quand, par des ingérences extérieures, TikTok, par des pressions variées, avec de l'argent qui arrive clandestinement, etc., un candidat d'extrême droite arrive en tête et peut gagner. Est-ce qu'il faut dire, le vote est sacré, ou est-ce qu'il faut prendre des mesures ? Prendre des mesures, c'est toujours un énorme problème, parce que Kalin Georgescu avait fait 23% des voix au premier tour de l'élection en novembre. Là, depuis qu'il avait été mis hors jeu, il était crédité pour l'élection qu'il remplaçait le 4 mai, de 40% des suffrages. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et d'ailleurs, c'est un problème qui se pose aussi en France, avec la question de est-ce que Marine Le Pen pourra, oui ou non, être candidate. Qui maintenant,
pour la question des emplois fictifs d'eurodéputés.
Des emplois fictifs des eurodéputés. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre hors jeu par la justice, aussi fondée soit-il, parce que là, je terminerai juste là-dessus, pour Kalin Georgescu, non seulement il y a eu des ingérences qui depuis ont quand même été relativement prouvées, il y a eu de nouveaux éléments qui montrent qu'il y avait tout un groupe de comploteurs autour de lui, avec un ancien légionnaire français qui avait une société de mercenaires en RDC, Horacio Porta. Il y avait, avec des brochures antisémites et néo-nazis à foison, de l'argent, des armes, de l'or. Enfin, il y avait tout un côté de grenouillement de l'extrême droite. Donc il y avait toutes les raisons légalement de le mettre hors jeu. Mais l'ombre de l'extrême droite reste sur le scrutin.
Et le problème, c'est que lorsque les démocraties agissent, l'invalidation d'une telle candidature sert le narratif de l'extrême droite ou des candidats qui se réclament de l'extrême droite.
Ah, totalement, c'est ce que je pense. Elle sert totalement ce discours finalement anti-système. Votez pour nous et on va pouvoir dégager toute cette caste politique. C'est sûr, on est quand même dans un engrenage assez dangereux. On comprend bien que la Roumanie n'ait pas envie que son élection soit influencée par Moscou. Mais la question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, c'est elle est où la limite ? 100 000 messages, 200 000 messages, 1 million de messages. C'est ça, je pense, la question qu'il faut se poser aujourd'hui. La Roumanie, je pense, d'une certaine manière, a pris un gros risque. Et aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui regarde ce qui se fait là-bas, parce que Moscou n'en est pas à son coup d'essai. Hein. On a parlé de l'élection de Donald Trump en 2016, la France, les mails d'Emmanuel Macron en 2017, l'Allemagne avec ses messages pro-AFD, pro-russe, la Roumanie désormais, l'Angleterre, le Royaume-Uni également, avec notamment ses tentatives de déstabilisation. Moscou n'en est évidemment pas à son coup d'essai, et ça marche. Lorsqu'on regarde les sondages en Europe, les gens ont de moins en moins confiance dans leur système démocratique. C'est exactement l'objectif de Moscou, saper la confiance des gens dans la démocratie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche
pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'objectif de Trump, et notamment l'objectif des plus structurés idéologiquement de la Silicon Valley, à commencer par Peter Thiel, qui a poussé d'ailleurs J.D. Vance comme vice-président, qui sont extrêmement structurés, très intelligents, qui ont une véritable vision politique d'une société. Alors d'abord, il le dit ouvertement, démocratie et liberté sont de plus en plus incompatibles. Et dans la vision de Peter Thiel, mais aussi d'un de leurs idéologues, Gavin Curtis, qui parle de lumière noire, donc des anti-lumières par rapport à... c'est l'idée qu'il ne faut plus une démocratie, mais une espèce d'oligarchie, monarchie, un gouvernement des plus riches et des plus sachants, qui seul est capable de prendre les vraies décisions, qui seul est capable de savoir ce que veut le peuple et tout. Et donc cette espèce de lame de fond, elle est en train de déferler des deux côtés, et c'est justement ça, on en parlait tout à l'heure, que la Roumanie est intéressante, parce que Georgescu, qui est quand même en grande partie un dingue, et soutenu à la fois par la Russie, mais aussi par des tweets d'Elon Musk. Il a fait au moins une quinzaine de tweets à la gloire de Kalin Georgescu, ce qui est quand même assez rare. J.D. Vance, à la conférence de Munich, a fait toute une partie de son discours sur la démocratie en Europe, sur le fait, mais qu'est-ce que c'est vos régimes de démocratie s'ils ont peur de s'ils peuvent être déstabilisés par quelques milliers de messages.
Et c'est une vraie question.
Etc. Donc cette convergence entre Trump et Poutine est extrêmement révélatrice.
Merci beaucoup, Marc Sémeau. Florent Rodeau, on va plus loin, c'est terminé. Mais bien sûr, ne manquez pas la suite de l'essentiel, c'est dans 3 minutes.